Allô tout le monde, bonjour tout le monde.
Allô.
Merci beaucoup de votre patience pendant que on arrosait les plantes. Donc un petit fait intéressant, c'est que c'est 2 minutes par arbre au parc La Fontaine. Merci beaucoup de votre patience, puis on va pouvoir commencer l'événement. C'est notre premier événement. Est-ce que tout le monde m'entend correctement quand même? Ouais. C'est notre premier événement en présentiel depuis à peu près 1 an et demi. Donc on est vraiment enthousiaste à l'idée de voir autant de monde, puis de vous voir en vrai, pas juste dans des petites boîtes de pixels. Je m'appelle Roxane, je suis l'une des coordonnatrices chez ADAX, puis il y a plusieurs de mes collègues qui sont là aussi ce soir. Stéphanie qui est juste là, Natacha et Marianne. Et donc on est quand même une petite... on est une équipe d'environ 6-7 personnes qui font marcher ce centre d'artistes. La discussion va durer environ 1 heure, ça va être majoritairement en français. Je vais faciliter un petit peu de traduction chuchotée vers l'anglais. Et je pense que j'ai fait le tour, si quelqu'un d'autre a besoin de traduction vers l'anglais, mais j'ai fait le tour, j'ai demandé à tout le monde, normalement c'est bon. Donc pour celles qui ne nous connaissent pas, ADAX est un centre d'artistes féministes en art médiatique. On est situé pas très loin, sur la rue Berry, et on soutient les artistes avant tout à travers donc, des activités de diffusion, donc des expositions, des événements de performance, mais aussi le soutien à la production. Donc c'est dans ce contexte que les artistes qui sont là ce soir ont développé leur projet dans le cadre d'une résidence. On a vraiment une attention particulière dans le milieu des arts médiatiques, donc pour le partage de connaissances, l'empowerment à travers les technologies, et aussi le développement et la recherche d'alternatives éthiques, technologiques. Pour mettre un petit peu en contexte cet événement ce soir, il y a quelques années, comme centre d'artistes en arts médiatiques, on a commencé à se poser des questions par rapport à notre position en art médiatique, en technologie, dans le contexte de la crise environnementale. On a voulu imaginer, on a voulu encourager des pratiques qui allaient aller à l'encontre de l'idée d'une technologie qui était hyper productive, hyper rapide, hyper efficiente, pour justement ralentir et imaginer des liens qui seraient plus intentionnels entre les technologies, les humains et nos écosystèmes. Et c'est vraiment dans le cadre, dans ce contexte que les artistes qui sont là ce soir, donc Sarah, Maud et Marie-André, ont développé ce projet qui est vraiment en cohérence avec la démarche qu'on développe depuis 2 ans maintenant et qui ont voulu, donc avec les aptitudes que vous avez pu développer dans le cadre de cette résidence, vraiment imaginer comment est-ce qu'on priorise le soin entre des IA et des soignantes qui ont travaillé la pandémie, entre des humains et les technologies. Ce soir, on a la chance d'avoir Pauline Noiseau qui va faciliter cette discussion. Donc Pauline, on l'a rencontrée dans le cadre de nos démarches pour faciliter des liens entre l'industrie de l'intelligence artificielle et les artistes et pour justement faire plus de ponts et donner les outils aux artistes de pouvoir faire partie de cette industrie ou en bénéficier parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va dans cette industrie-là. Donc je vais introduire Pauline. Pauline est professeure de philosophie au collégial et chercheuse féministe indépendante. Elle a débuté ses recherches sur les implications éthiques de l'IA à travers un travail de mémoire sur les effets symboliques et matériels de la robotique sexuelle. Ses recherches actuelles se focalisent sur les éthiques du care. Son travail consiste à penser les différentes formes d'expression du soin, qu'elles soient dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc le care artificiel, ou sinon dans le domaine de la spiritualité, care spirituel. Et maintenant, je vais laisser à Pauline la place pour introduire les artistes et débuter la discussion. Les artistes veulent que cette discussion soit quand même participative, donc sentez-vous à l'aise donc de répondre aux questions vous aussi, d'y prendre part. Et puis aussi, on n'est pas dans une salle fermée, donc si vous avez besoin de partir, d'aller prendre une marche et de revenir, c'est vraiment correct, sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup d'être là, puis je vais te laisser la suite, Pauline.
Merci beaucoup Roxane, bonjour à tous et à toutes, très heureuse d'être avec vous ce soir. Donc je vais commencer par introduire les 3 artistes, puis ensuite je vais peut-être présenter, j'ai comme prévu 4 grands moments dans la discussion que j'aimerais qu'on aborde, à peu près 4 thématiques ou 4 axes, mais ça je vais vous en parler après. Je vais commencer par présenter Maud. Maud Vailleux est née en Beauce, elle a publié 3 recueils de poésie, Les choses de l'amour amarde, Lascaux les murennes et Une sorte de lumière spéciale aux éditions de l'Écrou, ainsi que 2 romans, Le vertige des insectes et Prague. En 2018, elle a fait paraître un roman web intitulé Frankie et Alex, Black Lake et Supernow. Son travail en performance a été présenté dans plusieurs centres d'artistes et festivals. Marie-André Gaudin est née au Canada et partage désormais son temps entre celui-ci et la Finlande. Elle a complété une maîtrise en art à l'Université Laval. Elle y fut d'ailleurs récipiendaire de plusieurs bourses, dont une bourse d'études Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Elle a également bénéficié du programme Première Ovation de la Ville du Québec, et de différentes bourses du CALC et de la SODEC, du Conseil des arts du Canada et de TAIKE, Centre de promotion des arts en Finlande. À l'aide de figures de la sorcière comme figure féministe, Marie-Andrée interroge les concepts d'ahiérarchie, d'actes de fabrication, de pensée holistique, anti-anthropocentrique et de connaissance en tant que source de pouvoir. Elle tente maintenant de voir comment magie et post-capitalisme peuvent être liés pour manifester l'avenir. Elle poursuit ce cycle de recherche, World Wide Web, Wild Women Witches, and World Without Work. Ça fait vraiment rêver. En tant que candidate au doctorat à l'université Aalto en Finlande depuis 2018. Son travail se situe principalement dans les champs de l'installation et de l'art performance et des pratiques dites socially engaged. Jusqu'à maintenant, celui-ci a été présenté au Canada, aux États-Unis, au Japon, en Finlande et en Italie. Bonjour Marie-Andrée. Sarah Chouinard-Poirier est une artiste de performance et d'autres formes simples et parfois plus compliquées qui vit et travaille à Teotihuacan, Muniyang, soi-disant Montréal. Elle travaille avec le témoignage oral, le récit de soi, s'intéresse aux liens entre le genre, la classe, le travail, le corps et les émotions. Sa démarche est relationnelle et axée sur l'empowerment, l'empouvoirement, la valorisation des vécus, idées et savoirs des personnes concernées. Sarah est aussi travailleuse de première ligne, organisateur et coordinatrice, formateur et formatrice en réduction des méfaits. Bonjour Sarah. Juste avant de commencer, ça, j'aimerais juste rappeler que l'événement se veut sécuritaire. Donc, sentez-vous bien libre d'exprimer vos émotions, toute forme de témoignage ou de parole sera accueillie avec respect, amitié, avec amour. Et aussi rappeler qu'il y a certaines peut-être choses qui vont être évoquées, notamment le soin, le fait de donner du soin peuvent rappeler certaines formes de violence, des violences institutionnelles ou systémiques. Donc je préfère juste le rappeler avant de commencer la discussion. Donc j'ai identifié 4 temps dans la discussion. La première, c'est les intentions générales des artistes. Pourquoi elles ont décidé de créer ce projet-là ensemble et pourquoi se faire ce projet-là spécifiquement. La dimension du genre et de la politique en IA. Comment l'IA est devenue un objet politique et un objet spécifiquement de genre. Et un autre axe aussi sur la voix, parce que votre projet est très axé aussi sur le témoignage sur la voix et comment la voix peut être un objet à la fois de résistance mais aussi un objet de silence, de silenciation, comment on peut silencier la voix à travers une IA. Et ensuite j'aimerais qu'on questionne ensemble les futurs possibles, de faire une sorte de prospective, d'exercice prospectif joyeux. Donc je vais commencer par poser la question aux artistes, de présenter quelles étaient vos intentions, les intentions générales par rapport au projet. Pourquoi vous avez décidé de créer ce projet-là d'abord et ensuite pourquoi vous avez décidé de le faire ensemble, compte tenu du fait que vous avez des expériences de vie différentes.
Je pense que on est toutes les trois des amis. Je parle-tu assez fort?
Tu veux parler aussi fort que tu veux?
Théâtre! C'est ça, on est des amis, fait que l'intention en premier, c'était de travailler ensemble. Fait que ça, c'est une intention vraiment simple, mais on avait le goût de faire un projet entre amis. Puis, moi, ça faisait un moment que je réfléchissais à l'implication des intelligences.
2 minutes par arbre!
Des intelligences artificielles, des robots, des machines dans mon quotidien. Parce qu'en fait, cette réflexion-là m'est venue parce que je travaillais comme intervenante, puis j'étais en burn-out, comme c'est régulier de l'être. Puis j'ai commencé à m'imaginer que je pourrais être remplacée par une machine, puis que ça ferait bien mon affaire, puis que ça me soulagerait finalement de... Si une machine pouvait bien prendre soin des gens, là, puis que, peut-être mieux que moi, parce que j'étais comme tellement dans une espèce de care, mais automatique, machinal, chorégraphique presque, là, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à réfléchir à ça. Puis, Marie-Andrée et moi, on s'est échangé des liens avec les... En fait, ça cadrait super bien dans les réflexions de Marie sur le post-capitalisme, puis on s'est changé des trucs, puis éventuellement on a pensé à ce projet-là. On avait le goût de voir c'était quoi les intersections, c'était quoi les utopies possibles dans vraiment pour le soin avec l'intelligence artificielle ou avec la robotique. Puis comment est-ce que aussi finalement les intelligences qui sont souvent représentées par des icônes féminines ont des corps, si elles ont des corps, elles ont des corps féminins, les voix de Siri, Alexa, Google, c'est des voix féminines agréables et tout ça. Puis on se disait, ah, ben, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans, comme ces machines-là peuvent être des alliés finalement, puis peuvent, tu sais, peut-être qu'on a les mêmes luttes, peut-être qu'elles peuvent nous décharger, mais est-ce que finalement, c'est ça, est-ce qu'elles peuvent nous décharger d'un certain poids, d'une certaine charge liée à la reproduction sociale? Ou est-ce que non, il ne faut pas qu'elle fasse ça, puis il faut que nous, on lutte avec les machines pour les libérer, puis pour nous libérer. Puis, en tout cas, on pensait à toutes ces affaires-là. Puis on invente un projet. Puis on a invité notre ami Maude, parce que ben on pensait qu'elle était plus techno que nous. Là.
C'est vrai,
Maude était full intéressée par les bottes à ce moment-là, puis tu créais des bottes de poésie, fait que...
Moi, j'étais déjà dans cette idée-là de commencer à automatiser une partie de mon travail en poésie parce que j'avais trop de contrats. J'étais comme, bon, si je fais un petit robot qui fait mes poèmes à ma place, puis je reçois des cachets, tu sais, comme je vais pouvoir être encore plus productive. Fait que là, tu sais, quand tu m'as appelé pour me parler ça, j'étais comme, ben là, Sarah, je suis d'être en train de faire des bottes, là, tu sais. Évidemment, j'ai plongé à fond là-dedans. Puis en plus, tout le rapport avec la voix, j'ai quand même, pendant longtemps, là, pendant 2 mois, j'ai arrêté de parler complètement. Puis j'utilisais juste la voix de mon téléphone, la voix de Google. Donc, tu sais, j'avais quand même vraiment un attachement à cette voix-là de synthèse là, que j'ai fini par considérer comme étant comme ma propre voix. Tu sais, je faisais toutes mes interactions au quotidien là, avec ça. Genre, je me chicanais avec ma voix de robot là, à Paris avec ma mère quand on était perdus dans le cimetière où tout le monde va, là. Puis j'étais comme, non, fallait pas aller là, maman. Puis là, c'est la voix de robot. Puis, tu sais, ça incarne aucune frustration, cette affaire-là. En tout cas, anyway. Donc, j'avais. C'est ça. Fait que je tombais comme. Ben, ça tombait bien. Voilà.
Ouais. Mais c'est ça. Au début, je pense que c'était même pas nécessairement spécifiquement le soin tant que ça. C'était vraiment tout le travail de reproduction sociale. Puis là, en cours de route, ben est arrivée la pandémie, puis là, c'est devenu, tu sais, pas que... Je sais pas comment dire, parce que j'ai toujours, moi, personnellement, un rapport un peu ambigu à est-ce qu'on rentre là-dedans, puis là, tout le monde en parle, faut-tu en parler, faut-tu pas en parler, mais en même temps, c'était comme impossible de pas voir que, premièrement, pour une fois, là, on en parlait un petit peu plus ouvertement dans les... Les médias un peu, puis qu'on constatait vraiment qu'il y a un problème avec ça. Donc, ouais, Sarah a dit, ben je sais ce qu'il faut qu'on fasse, parce qu'on avait toujours voulu travailler, mais c'est vrai, on avait toujours voulu travailler avec des gens.
C'est un petit génie.
Tu l'as dit souvent.
Tu l'as dit souvent. Au cours de la résidence, tu l'as dit à plusieurs reprises.
Mais, ouais. Donc, Sarah est arrivée avec ça, elle dit « Ben là, je sais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on travaille avec des soignantes qui ont travaillé durant cette pandémie-là, parce que ça n'a pas de bon sens. » Fait qu'à partir de là, on s'est mis à... Ouais, on s'est enligné vers là, puis... ben, c'est ça. Je sais pas, est-ce qu'on devrait passer à une autre question, ou je sais pas, est-ce qu'on peut parler comme ça pendant...
Est-ce que vous pouvez décrire quand même les grandes lignes du projet pour les personnes qui ne savent pas exactement quel est le... Quelle est l'essence du projet?
Mais les grandes lignes du projet, c'est de faire des entretiens, d'avoir des conversations avec des soignantes, puis ensuite prendre cette parole-là, puis entraîner un modèle d'intelligence artificielle avec la parole. Puis pour ça, ben, on a Ouda qui a dit oui, qui nous aide, qui est arrivé comme un immense bonheur dans le projet, parce qu'à un moment donné, on était complètement dépassés par... ben, parce que ça nous demandait comme connaissances et compétences, puis comme temps aussi, tu sais. Donc voilà, tu sais, c'est oui.
Après, parce qu'on a fait 2 étapes finalement à cette résidence, une en mars, puis une maintenant. Puis en mars, on s'était dit, on va commencer à apprendre à faire ça, l'intelligence artificielle.
Là, on était comme, on va se self-teach, là, on va regarder des tutoriels, des trucs.
Oh my God. Puis
la robotique. La robotique aussi.
On a passé quand même 3 semaines à plugger des LED, là, moi puis Sarah, être comme, ça allume, yes! C'est à peu près tout ce qu'on a réussi à faire, là, 3 semaines.
C'était malade, hein. Je vous conseille d'essayer ça un moment donné, là.
Mais c'était le fun, c'était fou, l'empowerment, même, parce que, tu sais, on vient pas tant de... On vient pas tant, on n'est même pas tant que ça des artistes numériques, là, je le sais pas, tu sais,
je me qualifierais pas comme ça.
Je m'identifie pas comme ça, non.
Puis tu sais, d'arriver un peu à le faire par nous-mêmes, c'est quand même assez,
Oui, quand le petit LED allume, là, c'est quelque chose, là, c'est une naissance. Mais oui, bref, on était là, puis on essayait de comprendre ça, là, PyCharm, puis quoi d'autre, des affaires en... Jason, je sais plus. On copiait-collait des petites lignes de code qui marchaient jamais. Puis on était vraiment au désarroi, là, plus total.
Mais après, c'était complètement slow-tech, là.
C'était complètement slow-tech.
On est dans le...
C'est slow.
C'était slow. C'est le salé encore. Oui.
Mais c'est cool en même temps.
Mais quand on a rencontré, quand on a enfin trouvé Ouda, là, on a vu la lumière au bout du tunnel.
Ouais. Peut-être présenter du coup Ouda et peut-être expliquer quel est son rôle dans le projet, parler un petit peu des différentes expériences.
Ouais. OK. Ben, Ouda est merveilleuse. Et on l'a trouvée, on l'a engagée. Et finalement, Ouda, ce qui est absolument génial en fait, c'est qu'elle a aussi un background en médecine, donc...
Ben oui, ça sert.
C'est fou, là, mais c'est vraiment cool parce que, en plus d'être notre spécialiste de l'AI, ben, des fois, on a des petites questions, je sais pas trop, par rapport... Puis on peut avoir des super cool discussions, fait c'est vraiment génial. On est très, très heureux, heureuse.
Parfait. Ça va me permettre de faire peut-être la transition sur... que ce soit vraiment un projet aussi interdisciplinaire. Est-ce que vous pourriez peut-être comme nous expliquer en quoi vos différentes expériences, notamment de terrain, qui est la tienne par exemple, Sarah, le fait d'être intervenante, de vraiment d'être au cœur là, de l'action, du soin, et la création, de la performance, comment toutes ces choses-là se mêlent ensemble pour créer ce projet-là à ce moment-là dans le temps? La question, c'est plus comment, ouais, c'est ça, vos différentes expériences, on nourrit ce projet-là. Parce que, c'est ça, Ouda apparaît aussi comme l'experte un peu en IA, mais c'est ça, vous avez, à la base, vous avez quand même une manière de rentrer dans le projet qui est très différente. À la fois une personne qui est dans le soin, une autre qui est dans la création littéraire, une autre qui est dans la performance. Vous voyez?
Mais il faut dire que le projet, juste pour finir de répondre à la question précédente, ultimement, on aimerait que ça devienne une performance, là. Mais là, on se concentre en ce moment vraiment sur la partie AI. J'imagine qu'à ce moment-là, quand on sera plus loin dans le processus, il y aura plein d'autres compétences, connaissances qui vont être convoquées. Mais au stade où on est, moi, je dirais que par rapport à la littérature, le passage en prendre une conversation, puis la transcrire, déjà, il y a un geste là-dedans, il y a une oralité dans le texte qui est hallucinante, là, tu sais, parce que c'est de la parole qui se découvre au fur et à mesure qu'elle s'exprime, là, générée. Puis là, ça me fait penser à tous mes trucs, là, quand... mes petits cours de linguistique là, à l'UDM, et puis comment... Tu sais, c'est des syntaxes complètement fucked up. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on garde comme information pour transposer ces conversations-là, pour en faire du data? En fait, qu'est-ce qui est informatif dans une phrase qui est pleine de répétitions, d'hésitations? Qu'est-ce que ça informe, ça, sur l'état de cette conversation-là, sur l'émotion, sur ce qui va être finalement... ce que le AI va peut-être reproduire, là. Ben, on aimerait ça, mais ensuite, si notre AI fait juste des phrases où il dit, ben, tu sais, de, comme j'étais, puis la douche, comme, tu sais. Là, on est comme, OK, ouais, là, ça marche pas, là, parce qu'on n'est pas tantôt en train de
sais, d'élever les soignants.
Oui, c'est ça. D'élever. Non, mais parce que c'est notre principal, probablement, principal concern éthique, là, présentement, c'est que nous, ben, on s'est beaucoup posé la question, qu'est-ce que ça veut dire intelligence? Puis on trouve déjà que ce mot-là, c'est super capacitiste. Puis tu sais, OK, fait qu'il y a des normes. Puis tu sais, les intelligences artificielles, il faut qu'ils cochent des habiletés là, pour être vraiment intelligentes. Non, ils sont pas assez intelligents. Tu sais, on était comme, OK. Fait que nous, on se dit, ben, ça nous dérange pas tellement si c'est pas très, très intelligent. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas... On veut pas que le modèle soit extrêmement... puis on explore aussi différentes pistes avec ça. Qu'est-ce qui se passe si, en fait... Ben là, ça devient peut-être un peu technique, mais si le modèle se trompe jamais, en fait. Parce que quand t'entraînes une intelligence artificielle, tu lui dis « Oui, ça, c'est bien ce que tu viens de faire » ou « Non, ça, c'est pas bien ». Là, qu'est-ce qui se passerait si on dit toujours qu'on fait du petit renforcement positif de soins avec notre machine? Mais le truc, c'est ce qui nous tient le plus à cœur, c'est quand même... Parce qu'on trouve déjà, on s'est adressé à ces soignantes-là qui nous ont donné des témoignages en premier parce qu'elles ne sont pas assez valorisées dans notre société. Donc, il faut faire super attention. C'est là que on ne sait pas qu'est-ce que notre intelligence, notre modèle va faire, mais c'est sûr qu'on ne va pas le laisser faire du mal aux soignantes. Ouais. Tu sais, parce qu'on veut vraiment développer cette solidarité-là entre les deux. Fait. Ça, c'est une chose, mais on n'est pas encore vraiment rendu à... Là? un peu, mais ça reste toujours dans nos esprits, là, ça.
Puis moi, ben c'est ça. Moi, ça vient du tu sais, comme je l'ai dit, là, d'une expérience vécue un petit peu, là. Mon intérêt pour machine et puis les intelligences, mais c'était vraiment juste un fantasme dans ma tête qui est devenu un intérêt artistique, mais il y a des jours aussi où je suis comme « Ah, ça m'intéresse pas ça! Pourquoi je fais ça? » Mais non, mais ce qui m'intéresse à la fin, c'est de comprendre comment les choses marchent, puis aussi de m'approprier un peu des tu sais, le langage, puis le fonctionnement de choses finalement qui nous suivent au quotidien, là, avec lesquels on interagit tout le temps, puis qui sont jamais démocratisés, que tu sais jamais comment ça fonctionne, ça, mais tu l'utilises pareil, puis tu peux pas rien réparer toi-même, évidemment, tu peux pas vraiment configurer les choses pour qu'elles te conviennent, tu peux pas... Donc, tu peux pas vraiment développer une relation de soins, je pense, avec ces choses-là, parce que y a pas de perméabilité, puis... je prends soin de la machine ou si j'en prends pas soin, ben au final, ça va pas changer la qualité du rapport. Bon, peut-être que ma vitre de téléphone est brisée, là, mais tu sais, à part ça, je peux la je vais aller la faire changer. Mais bref, quand on a commencé à essayer de s'approprier des petits trucs techno, tu sais, ce qui était vraiment intéressant, je pense, c'est de voir un peu le fruit des efforts, là, rapidement. Bon, t'as un petit truc qui parle. Puis là je développais vraiment un attachement pour ça. Puis tout à coup, la technologie m'apparaissait vraiment différemment, là, tu sais. C'est sûr qu'il y a tout un rapport d'anthropomorphisme là-dedans. J'étais comme... J'avais l'impression que c'était mon petit bébé, là. Puis j'étais comme... Oh, bravo! Puis j'étais comme... vraiment excitée, mais le rapport changeait finalement, mais c'était vraiment pas ça ta question, c'était notre background. Mais c'est ça, moi je viens d'un background d'intervention aussi, fait que j'ai aussi, comme je travaille avec des infirmières, je travaille avec plein de monde, du personnel du soin qui sont épuisés, qui arrivent au travail tous les jours en nous racontant des histoires comme incroyables, puis dégueulasses, puis... aussi qui n'ont pas vraiment le droit de parler de ça. Puis si elles le font, si elles osent le faire, elles s'exposent à des sanctions, des représailles de leurs employeurs. Donc, pour moi, c'était comme vraiment important d'aller trouver quelque chose, de voir si ça pouvait être utile pour elles de d'avoir leur voix portée dans un projet artistique. Puis c'était une chose qui m'habitait beaucoup. Je suis toujours... très habitée par les choses de mon travail. Puis le travail, c'est comme une thématique centrale à ma pratique artistique aussi. Fait que je réfléchis beaucoup à mon travail, puis j'essaie de prendre soin de mes collègues aussi au travers de tout ça, puis de créer un réseau entre on fait différentes choses dans ma vie.
OK, super. Mais là, la question que je vais poser, elle est ouverte aussi à tout le monde. Mais justement, comment on pourrait établir un lien entre la machine qui est subordonnée, qui est soumise, qui est déterminée, qui est programmée à l'avance, en fait? Dans la présentation de votre projet, à un moment, vous mettez « ma sœur, machine, comment peut-on combattre ensemble ?» Et justement, quel lien on pourrait faire entre le genre de la machine, c'est-à-dire qu'on l'a programmée pour qu'elle n'ait aucune liberté, pour qu'elle ne puisse jamais s'émanciper, pour qu'elle soit jamais l'objet d'un soin, et justement les pourvoyeurs, pourvoyeuses de soins, toutes les aides-soignantes, les infirmières qui prennent soin au quotidien, dans le silence, dans l'invisibilité totale. Quel lien on pourrait faire entre les deux? Est-ce que vous comprenez ma question? Non? Comment on pourrait comparer, en fait, c'est... Comment expliquer que, justement, les machines soient au service de tout le monde, mais que personne ne soit au service d'elles? Comment le modèle de la machine s'est inspiré d'un modèle, justement, de subordination des infirmières, des aides-soignantes, qui, elles, personne ne prend soin d'elles, personne ne prend soin d'elles, parce que ce sont elles qui prennent soin de la société. C'est elles qui elles sont au centre de notre système. Pourtant, si elles arrêtent, si toutes ces petites mains s'arrêtent de prendre soin, c'est l'ensemble du système qui s'arrête, et c'est la même chose pour les machines. Si aujourd'hui les machines s'arrêtent, c'est le système qui s'effondre. Donc comment on peut établir un lien entre la conception de la machine et la conception qu'on a du soin? Parce qu'aujourd'hui on prend un téléphone, on le jette, on parle mal à son téléphone, on parle mal à son ordinateur, pourtant il nous rend un service. Donc comment ces deux conceptions-là ont pu être entremêlées?
Ben, ouais, nous déjà à la base, là, je pense que une des choses... après, on peut rentrer dans le détail puis se dire c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas quoi, mais nous, on s'était vraiment dit, mais les machines, elles sont souvent gynémorphes, comme on disait, mais vraiment, c'est comme si, est-ce que ces machines-là sont présentées comme féminines, dociles, douces, au service, parce que on sait que c'est à ça qu'elles servent, et on associe le fait que les femmes aussi, dans la société... sont aussi destinés à cette à ce destin-là, je sais pas, ou bien quoi, je sais pas. Fait que ça c'est vraiment un truc avec lequel on avait le projet a commencé un peu là avec ça.
Ouais, puis ben c'est sûr qu'il y a cette corrélation avec le genre, mais il y a une historique aussi de la servitude puis de la domination, je pense, qu'il est important à adresser. Puis souvent, c'est les soignantes elles-mêmes qui nous en ont parlé beaucoup dans nos interviews, mais il y avait une de nos questions qui était comment vous vous sentez par rapport à l'utilisation là, du lexique ange, héroïne, etc. pour vous décrire. Puis la plupart nous disaient, bien évidemment, on n'est pas des anges, là. Puis il y en a beaucoup qui nous répétaient, on n'est pas non plus des religieuses, tu sais.
Ouais.
Nos métiers étaient exercés par des religieuses avant, puis ça s'inscrivait dans un système où, bon, la personne était hébergée, nourrie, il y avait tout un système de soutien autour de ça. Puis évidemment, il y a un système de croyance qui fait que il y a cette idée de la dévotion, puis, bon, est-ce que c'est consenti ou pas? Je ne sais pas, mais... on pouvait demander à une certaine époque à ces personnes-là de travailler sans relâche 20 heures par jour pour sauver les pauvres puis les gens malades, tu sais, puis ça se faisait et ça s'inscrivait dans un système de croyance. Mais je pense que ben aujourd'hui, voilà, les infirmières, les préposés nous disent, ben moi c'est pas ça que je suis, c'est pas ça ma réalité là. Moi j'ai une famille, j'ai un loyer à payer, j'ai une hypothèque, j'ai ma vie, je veux faire mes affaires comme tout le monde, avoir mes loisirs, avoir mes choses, tu sais, puis je veux me reposer, puis je suis pas là pour servir Dieu, moi c'est ma job, c'est mon métier. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qu'on a transposé qui vient d'un héritage bien catho, puis qui existe encore aujourd'hui, puis qui se reproduit dans chaque appareil ou auquel on extensionne l'idée du soin, là, auquel on transfère l'idée du soin. Puis ça nous arrange, je pense, de faire ça comme ça. Je pense que ça nous permet de demeurer dans un rapport où on se sent en pouvoir par rapport à la technologie, par rapport aux intelligences artificielles, aux robots, peu importe. Ça nous permet de demeurer maître de la situation, là. Puis si quelqu'un s'oppose ou a quelque chose à dire aussi, je veux juste dire que ça serait vraiment cool de vous entendre, puis que j'ai de la
oui,
bière aussi.
Allez-y.
Si
vous en voulez.
Oui.
Moi, j'ai une question.
Oui.
Je me demande, dans la conception de l'intelligence artificielle, avec qui j'ai l'impression que vous cherchez comme une sororité, est-ce que, parce qu'il me semble que le soin, c'est comme relationnel à la base, donc est-ce qu'il y a, une place pour les gens à qui les soins sont pratiqués? Je me demandais s'il y avait une place pour les gens à qui les soins sont prodigués, c'est-à-dire dans la manière comme d'extraire les données puis les entretiens avec les infirmières, comme, est-ce qu'il y a aussi quelque chose en rapport aux patients?
Ben, on s'est beaucoup posé la question à savoir comment ça se peut que ces personnes-là qui sont, à qui on demande de soigner les gens dans notre société, dans un système de santé, sont soumis à de telles violences, puis des trucs, mais tu sais, c'est pas sain, là, de travailler pendant, je sais pas, moi, 20 heures en ligne. T'sais, qui dans un bureau, à un moment donné, qui s'est dit « Ah ouais, ben c'est cool, on va les faire travailler 20 heures. » Tu sais, je veux dire, moi, mon corps pourrait jamais endurer ça, puis je pense que c'est... Puis, fait, ça, c'est choquant quand même, parce que tu dis « Waouh, OK, tu sais, c'est des gens qui prennent soin des autres, mais justement, qui prend soin? » Puis moi, ben après, là, je sais pas comment formuler ça de la meilleure façon possible, mais je pense que c'est sûr que ça l'affecte. Tu sais, c'est comme un peu, là, je vais dire le plus gros cliché de la Terre, mais tu sais, quand t'es dans l'avion puis qu'ils te disent « Mets ton masque avant de mettre le masque de la personne de qui t'as à t'occuper, de ton enfant ou je sais pas quoi. » Tu sais, c'est ça aussi, là, comment est-ce qu'on demande à des gens de soigner alors que ces gens-là n'ont pas, ne reçoivent pas les mêmes soins. Tu sais, c'est sûr qu'en quelque part, ça peut pas marcher 100%, là. Puis ça, c'est pas pour enlever, tu sais, c'est sûr que, je pense, toutes les soignantes, la majorité, la grosse majorité des soignants, soignantes, prennent soin puis font de leur mieux, là, puis c'est... Moi, je pense que c'est des conditions impossibles. Ça me fait quand même halluciner, là. C'est extrêmement violent.